Frédéric Ancel est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir, bonsoir, plutôt bonjour. Je me trouve en Amérique du Nord pour un cycle de conférences.
Mais oui, vous êtes à New York, absolument. J'espère que la connexion sera bonne, que les auditeurs vous entendront bien. Vous êtes en direct. Frédéric Ancel, vous organisez mercredi 8 février à l'Assemblée nationale la 13e édition des Assises contre le négationnisme. Il faut s'inscrire. On peut s'inscrire. Bon, là, l'adresse mail est un peu compliquée, il faut chercher tout ça. Mais c'est la 8e fois, les Assises contre le révisionnisme, le négationnisme. Et je vais vous dire, Frédéric, la première fois que vous m'avez parlé de votre projet, qui est un projet universitaire, académique, je me demandais un peu pourquoi. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il a c'est bien, on va jamais grandir. Vous n'allez jamais entendre Radio Shalom dire qu'il ne faut rien faire contre le négationnisme. Mais pourquoi, à chaque fois, en plus, de manière récurrente, on fait le point, etc. Et j'ai le sentiment, mais c'est vous le professeur de géopolitique, mais j'ai le sentiment que la guerre en Ukraine nous a montré à quel point le négationnisme est devenu une arme de guerre ultra-moderne. C'est... Ben je répète, je ne vais pas répondre à votre place. Moi, je ne suis que suffoqué de ça.
Oui, vous avez raison. D'ailleurs, c'est fou parce que cette année, pour la 13e édition, on va effectivement traiter du thème suivant, relativiser les crimes de masse en temps de guerre. Et le « en temps de guerre », il est en gros, en gras, en surligné et souligné, parce que c'est quelque chose, en réalité, qui existe depuis toujours. Le gouvernement jeune turc ottoman 1915, il procède déjà de cette manière-là. Et aujourd'hui, les négationnistes du génocide arménien disent « oui, mais enfin, c'était la guerre ». Et puis, il y avait le front russe qui n'était pas loin, bien sûr. Sauf que les négationnistes du génocide des Tutsis rwandais en 94 disent un peu pareil. Bah oui, mais il y avait la guerre contre le front patriotique. Bon. Et à certains égards, d'ailleurs, une forme de négationnisme nazi au moment de la Shoah a immédiatement consisté à dire « mais de toute façon, nous sommes en guerre ». Et le mot était employé en permanence. Avec les Juifs, c'est eux ou nous. Donc, on s'inscrit aussi dans ce négationnisme-là, dans une forme effectivement de guerre. Et quelque part, ça permet de le relativiser, de le nier, de le minimiser, ou pire, de le légitimer. Et vous voyez, chaque année, on a donc effectivement un thème différent. Et vous avez raison. D'ailleurs, il y aura l'une des 5 tables rondes, ce 8 février à l'Assemblée nationale, sera justement consacrée au cas contemporain. Et parmi les catégories contemporains, on se demandera, avec des juristes, des universitaires, des historiens bien évidemment, dans quelle mesure ce qui est en train de se passer en Ukraine, notamment en termes de propagande russe, ne relève pas d'une forme déjà de négationnisme.
Déjà, par exemple, j'ai vu un reportage aujourd'hui sur la façon dont Mariupol est complètement reconstruit. C'est-à-dire, ça passe en Russie et on nous montre un beau reportage sur Mariupol entièrement reconstruit. J'ai pas d'exemple le plus flagrant sur les mensonges fous des Russes. Le plus flagrant, c'est on est là-bas pour une opération de dénazification. Alors que dès qu'ils s'installent dans une ville, en fait, la première chose à faire, c'est de mettre le drapeau russe pour montrer ici, c'est chez nous. Donc rien à voir avec la dénazification. Ce qui m'étonne dans le même temps, c'est la facilité à dire la vérité, à dire franchement, oui, on bombarde toutes les centrales nucléaires, les centrales électriques une par une, oui. Et Poutine a osé dire, oui, c'est vrai, on fait ça, mais il a osé dire, mais c'est pas nous qui avons commencé. Il y a les deux.
Et vous savez, le négationnisme est toujours, d'une façon ou d'une autre, une forme de propagande. En revanche, toutes les propagandes ne sont pas de nature négationniste. Là, vous pointez le doigt sur la propagande qui est un phénomène à la fois universel qui remonte à la nuit des temps, sans doute aux premières cités sumériennes. Bon. Donc, les régimes politiques, et notamment ceux qui sont autoritaires et ou impérialistes, et c'est le cas aujourd'hui au Kremlin, usent et abusent d'une propagande est effectivement souvent extrêmement grossière. Bon, on l'a vu tout au long du XXe siècle. Outre la propagande, il y a aussi une deuxième dimension liée au négationnisme, c'est un petit peu l'autre face du même Janus, c'est le complotisme. Et là, vous savez aussi bien que moi, sinon mieux, que ces dernières décennies, ces dernières années en particulier, via cet amplificateur, alors ce n'est pas un créateur de, mais c'est un amplificateur de les médias sociaux, les réseaux sociaux, aujourd'hui, le complotisme est devenu un phénomène extrêmement grave. Extrêmement grave parce qu'il touche non seulement un certain nombre de populations ou de pans d'opinion publique qui se laissent abuser par des propagandistes, pour le coup parfois négationnistes, parfois pas, mais en tout cas par des propagandistes, mais pire que ça, on en a au pouvoir. dans un certain nombre de pays et des complotistes, et y compris à la tête des grandes démocraties. Donc je pense que c'est d'autant plus important, effectivement, d'organiser ce qui est unique en France, hein, ces assises antinégationnistes. Je ne le dis pas par outrecuidance, mais c'est juste objectif. C'est important pour les étudiants, c'est important pour tout le monde, pour tous les citoyens, parce qu'il s'agit de rappeler en permanence, hein, d'abord la réalité, la complexité et la dangerosité d'un phénomène multiple. Hein, le négationnisme se nourrit toujours de propagande et de complotisme.
Alors, par exemple, j'ai lu cette semaine un haut responsable, un scientifique russe, qui dit: les Israéliens ont installé un hôpital en Ukraine, ce qui est vrai, ils ont installé un hôpital de campagne en Ukraine, pour pouvoir prendre les organes des Ukrainiens et les envoyer en Israël. Et tout ça sous la supervision de Zelensky. Et encore une fois, je veux dire, normalement, quelqu'un qui a fait un petit peu d'études, il dit non, ça va pas passer un truc pareil. Ça passe, nickel crayon, hein?
Ah oui, malheureusement, vous savez ce qu'on dit, hein, dans les cours de récréation, plus c'est gros, plus ça passe. Et malheureusement, tout à l'heure, j'évoquais le XXe siècle. Je ne suis pas en train de faire une comparaison entre le Kremlin aujourd'hui et le Troisième Reich d'hier et Goebbels d'hier. Mais, malheureusement, de 1933 à 1943, 44, 45, une grande partie, pas la totalité, mais une grande partie de la population allemande s'est fait littéralement intoxiquer par la propagande nazie qui était absolument outrancière. Aujourd'hui, si
Ce
elle a
niveau-là,
mené
c'est comme ça,
à...
c'est pareil, ça, c'est nazi, ça. Vous faites le
Ah, et
truc le plus
alors...
positif du monde, vous installez un hôpital, vous vous mettez en danger, vous allez en zone de guerre, vous habitez loin, vous habitez au Proche-Orient, et vous vous retrouvez en ouvrant le journal à apprendre que vous êtes en train de voler des organes sur des soldats pour les envoyer chez vous. Extraordinaire.
Oui, non, mais c'est ça. Non, mais oui, mais ce qui est terrible, c'est que, mais oui, vous semblez désabusé, et n'importe quel
Bah oui.
humaniste est désabusé par rapport à ça, face à ce type de propagande. Mais le problème, c'est que si des hommes d'État, en l'occurrence aujourd'hui Poutine, mais il y en a eu bien d'autres, et il y en a aussi d'autres de manière contemporaine ailleurs dans le monde, continuent d'utiliser avec une extraordinaire grossièreté ce type de propagande, c'est que d'une façon ou d'une autre, ça marche. Alors, ça marchera peut-être pas dans les grandes lignes, mais d'abord, ça coûte strictement rien, ça fait peur. Nous, ça nous fait alors ricaner amèrement, ça nous fait ricaner jaune, mais du coup, regardez, la preuve, on en parle. Et quelque part,
Ah oui.
une partie des opinions publiques occidentales sont censées être la cible de cette propagande. Et on se dit, au fond, quand on est un peu rationnel et un peu humaniste, mais en fait, si ils sont capables de dire ça, c'est qu'ils sont complètement dingues. Oui, mais du coup, on en a peur de la folie. Enfin, de la folie entre guillemets ou sans guillemets, y compris sur le plan politique. Donc, vous voyez, je pense que tout cela, au fond, évidemment, Poutine n'y croit pas un seul instant, il n'est pas complètement idiot, mais s'il décide
Alors moi, je me demande des
d'accepter que cette
fois si s'il n'est
propagande...
pas un
Oui.
peu comme Saddam Hussein, il croit pas un peu au Ceausescu et qu'il croit pas un peu à son délire. Quand il dit, par exemple, il était dans une visite dans une usine d'armement, il a dit: vous savez que vous produisez ici plus de tanks que tout le monde occidental. Mais monsieur Poutine, c'est impossible. Vous parlez de la planète. Vous pouvez pas. En plus, on sait que c'est pas vrai. Mais il faut voir avec quel calme il dit: vous produisez plus de tanks que tous les pays occidentaux réunis. Il ment, mais moi j'ai l'impression des fois qu'il y croit. Et je voudrais vous poser une question subsidiaire, Frédéric Ancel. Ce qui m'étonne aussi, c'est le nombre, vous êtes sur Radio Shalom, de membres de la communauté qui croient Poutine. Je suis sidéré par ça. Je vais vous donner un exemple. Je parle à quelqu'un qui lui aussi a fait des études, parce qu'on peut se dire, bon, l'ignorance fait que... Non, non. Et je lui dis: mais tu es religieux, est-ce que tu sais le mal que le régime poutinien, parce que Poutine, il n'est pas issu de rien, c'est comme les islamistes, il ne vient pas de rien. Donc Poutine, l'idée russe qu'incarne Poutine ou Lavrov, c'est une idée qui vient de la Russie soviétique, du KGB. Vous savez ce que ces gens-là ont fait comme mal à toute la famille des Rebbeim Lubavitch. Vous savez que ils ont été déportés, ils ont été emprisonnés, ils ont été... Eh ben, j'ai en face de moi quelqu'un qui me dit: non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est beaucoup plus grave, j'ai même entendu cette phrase, c'est beaucoup plus grave Joe Biden et les démocrates américains, parce que eux, ils te font croire qu'ils sont tes amis et ils ne le sont pas. Faut quand même entendre le niveau. Comment ça se fait qu'on est devenu aussi fou que ça, qu'on est descendu aussi bas, j'ai envie de dire.
Alors, simplement, d'un mot, méfions-nous du « on ». C'est-à-dire que moi, je
Ah ouais.
pense que là, on a affaire à une minorité de gens qui se laissent abuser ou fasciner par la brutalité. Et je suis moi aussi consterné par le nombre de gens m'ayant dit avoir voté pour un candidat extrémiste, maurrassien, sinon fascisant, aux dernières élections présidentielles, sous prétexte d'ordre ou de remise en ordre. Et en réalité, beaucoup de gens, malheureusement, confondent l'efficacité ou l'ordre et la brutalité. Et la brutalité, malheureusement, elle fascine. Et elle fascine de tout temps, et pas seulement une communauté, une collectivité, plutôt qu'une autre. Et je pense malheureusement qu'effectivement, aujourd'hui, une minorité de gens, alors peut-être dans la communauté juive, mais pas plus qu'ailleurs, je pense, au sein de beaucoup d'autres collectifs, considèrent que, bah tiens, allez, lui au moins, je le dis en substance, lui au moins, bah, il est patriote ou il est, je sais pas, nationaliste et il veut rétablir l'ordre. Et d'ailleurs, c'est la victime bah, permanente hein, des manigances des Américains. Et je pense que là, effectivement, on est aux confins hein, de cette fascination dite ou non dite pour la brutalité. Et il en joue beaucoup, Poutine. Et il en joue la preuve, ça marche chez certaines personnes. Et sur là, la vieille fascination, alors autre, cette fois-ci, concernant les prétendues manigances américaines depuis toujours. Et tomber là-dedans, alors c'est vraiment, effectivement, malheureusement, c'est vraiment, vraiment très consternant.
Frédéric, il nous reste 2 minutes, mais je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser une question sur Israël, puisque c'est quand même votre grande spécialité, le plaisir pour lequel je vous ai toujours à l'antenne, ou en tout cas régulièrement. Sur ce nouveau gouvernement, une seule question. Est-ce que vous, expert, sur la scène internationale, vous dites oui, un gouvernement tel qu'il est formé comme ça, c'est des jours difficiles pour Israël, aux États-Unis, en Europe, y compris dans le monde arabe. L'Arabie Saoudite a donné l'impression de très très sérieusement lever le pied en Jordanie avec le monde du Temple, etc. Ou non, parce qu'aujourd'hui, on est à l'époque des régimes forts, de droite, forte, droite, dur, et voilà, et c'est juste un gouvernement de droite dur, on va dire, ce qu'on a sur la planète Terre, il y en a partout, il y en a en Italie, il y en a en Hongrie, il y en a en Pologne, qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? Alors, il y a des gens qui, je crois, j'ai lu quelque part que vous aviez utilisé le mot de voyoucratie, et ce que j'ai cru comprendre, moi, c'est que non, vous parliez d'un contexte général, enfin non, vous n'avez pas dit ça, quoi, en fait. Mais par contre, Non, vous confirmez, très bien.
Non, je vous réponds concrètement. D'abord, j'ai jamais parlé de voyoucratie pour Israël, ça c'est une certitude. J'ai dit en revanche qu'au moins 3 ministres, il en reste que 2, hein, puisque le plus corrompu des 3 a été empêché, ce qui est rarissime dans une démocratie, par la plus haute cour évidemment d'exercer son magistère de ministre, et pour cause, il était corrompu au dernier degré. Et les 2 restants que j'ai stigmatisés sont pour moi de véritables voyous. Bien sûr, ce sont des voyoucrates. Mais j'ai pas dit qu'Israël est une voyoucratie, jamais.
Smotrich et Ben-Gvir ?
Bien sûr.
D'accord. Il nous reste 1 minute
Sur le plan diplomatique, pour vous répondre concrètement, je pense que tant qu'il n'y aura pas de politique irréversible ou de coup d'éclat irréversible sur le plan politique, diplomatique, notamment vis-à-vis des Palestiniens de la part d'Israël, non, très franchement, je ne crois pas qu'on puisse s'attendre à un vrai coup de semonce, y compris d'ailleurs pour les pays arabes, et je pense même pas d'ailleurs que les accords d'Abraham soient menacés. J'ajoute que Netanyahou, alors on en pense ce qu'on veut, mais sur le plan international, il n'est pas considéré comme un va-t-en-guerre, c'est plutôt un immobiliste en quelque sorte, en tout cas sur le dossier palestinien, et ça n'a pas gêné les 4 États arabes signataires des accords d'Abraham de passer l'accord alors que Netanyahou était au pouvoir. En revanche, j'insiste, je pense que s'il laisse ces 2 ministres trublions faire n'importe quoi, alors oui, malheureusement, oui, je pense qu'il peut y avoir des conséquences diplomatiques tout à fait fâcheuses pour Israël.
Frédéric Ancel, je rappelle vos assises nationales contre le négationnisme qui auront lieu le mercredi 8 février, c'est à l'Assemblée nationale, c'est celle Colbert, vous étiez en direct avec nous de New York. Je vous remercie Frédéric, bonsoir à vous.
Merci à vous.